Donc bonjour à tous, bienvenue à cette session C Sharp et .NET Énigmes et Puzzles. Donc on va se présenter rapidement.
Clément Gatin.
Luc Vauvent. Donc on est tous les deux des consultants en développement chez Microsoft Consulting Service. Donc on est basé à Issy-les-Moulineaux, hein, comme le reste de Microsoft France. Et on est très content que vous soyez venus aujourd'hui. Alors, une chose très importante qu'on nous a dit de répéter et qu'on vous répétera tout au long de ces trois jours, c'est s'il vous plaît, notez les sessions. C'est extrêmement important déjà pour nous, animateurs de sessions, mais aussi pour les Tech Days en général, puisqu'on peut améliorer les Tech Days chaque année grâce à vos retours et notamment grâce au site comme note.mstechdays.fr. Je vais vous parler brièvement, mais très très brièvement, de Microsoft Consulting Service et de Microsoft Service en général, c'est-à-dire là où nous travaillons. Donc Clément et moi, on est des employés Microsoft. On travaille pour les services d'entreprise. Les services d'entreprise chez Microsoft, c'est quoi? C'est une partie, ce qu'on appelle Enterprise Strategy, donc c'est-à-dire la place de l'IT et notamment des produits Microsoft au sein des entreprises, quelle que soit leur taille. Microsoft Consulting Service, donc c'est là où nous, plus spécialement, on travaille. Donc on intervient sur des projets chez des clients sur des points généralement assez pointus et pour donner donc les meilleures pratiques, etc., dans l'utilisation des technologies Microsoft dans des vrais projets en entreprise. Et dernière partie, on a le support premier qui sont des personnes très, très pointues techniquement qui interviennent sur le run des projets, c'est-à-dire si vous avez des projets critiques qui tournent dans vos entreprises, comme j'en suis sûr, ces personnes-là pourront vous aider à dépatouiller les problèmes de manière très efficace. Donc là, c'est une pub, c'est vraiment moi qui l'ai mis cette fois-ci. Donc toute une équipe de Microsoft, on a écrit une série de 4 livres sur la nouvelle génération des systèmes d'exploitation Windows. Donc je vous invite à les précommander, donc à l'adresse qui est en dessous, et surtout celui avec les poussins, celui sur lequel j'ai travaillé, qui est quand même le meilleur, je pense. Alors, agenda de la session. On va faire déjà une petite introduction. Et on va voir les objectifs, donc pourquoi on a fait cette session. Ensuite, on a la liste des énigmes. Donc je pense que les titres ne vous parleront pas spécialement tout de suite, mais on va rentrer dans le vif du sujet très bientôt. Introduction et objectifs. Alors pourquoi cette session? Donc tout d'abord, qui dans la salle ici utilise le C-Sharp tous les jours ou quasiment tous les jours? Voilà, qui adore le Visual Basic? Ouais, cachez-vous, ok. Donc effectivement, vous êtes bien dans la bonne salle. Donc, comme des millions et des millions de développeurs de par le monde, C-Sharp est utilisé pour développer des applications de la plus simple à la plus complexe. Et en fait, on l'utilise souvent très... comme si c'était déjà là et très simplement, finalement, alors qu'il y a tout un travail qui est fait par le compilateur et c'est ça qu'on aimerait mettre en avant. On pourrait aussi, suite à chaque énigme, on va vous expliquer la résolution de l'énigme, évidemment, et aussi le pourquoi du comment, et éventuellement en tirer quelques bonnes pratiques. Et puis je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont là aujourd'hui, tout simplement pour se tester, pour voir est-ce que j'arriverai à résoudre toutes les énigmes. Donc, petit historique en bref de C-Sharp, pour bien démarrer. Donc C-Sharp est apparu en 2001 avec la première version du framework .NET. Donc 2001, ça fait bientôt 12 ans, donc ça commence à être un langage assez... assez important, on va dire. Et donc aujourd'hui, on est dans la version 5 de Visual C Sharp qui est sortie en même temps que Visual Studio 2012. Donc C Sharp est spécifié dans un document qui est un document de standard. Hein, donc tout le monde peut implémenter un compilateur C Sharp, notamment. Et donc on va aller du coup sur la première énigme. Énigme 0. Où trouver la spécification de C Sharp? Réponse A sur Internet, B sur le blog d'Ander Eichberg qui est un des concepteurs principaux du langage. Vous l'avez toujours sur vous ou vous faites F1 dans Visual Studio pour voir. Réponse, on a du A. Qui dit A? On va aller assez vite parce que, ok. B, pas beaucoup. Qui l'a toujours sur soi? D'accord, ok. Bah alors du coup, on va vous montrer la réponse. Là, c'est la réponse C, en fait. Vous l'avez très probablement toujours sur vous, puisque quand vous installez Visual Studio, quand vous installez Visual Studio, Visual Studio 11 qui est Visual Studio 2012. Allez, voilà, Visual C Sharp, spécification, et voilà, vous l'avez déjà installé, donc vous l'avez très probablement toujours sur vous. Voilà, C Sharp Language Spécification, d'ailleurs même traduit en français, hein, pour ceux qui apprécient la littérature. Voilà, donc c'était la première énigme, donc une personne a eu bon ici. Donc pour les lots, c'est pas sûr qu'on puisse les distribuer en direct, puisqu'au début bon, on...
Ceux du fond, je crois que vous n'aurez pas de lot, ou alors il faudra venir nous voir à la fin.
Voilà, on se souviendra peut-être pas de vous, mais on fera confiance. Donc oui, la réponse était C, vous l'avez toujours sur vous dès que vous installez en fait le Visual Studio ou le framework, le .NET SDK. On va vous montrer aussi un petit outil qui est HildaSM qu'on va utiliser pendant la session. Donc HildaSM qui est un décompilateur .NET. Donc vous compilez un programme en C Sharp, vous avez une DLL ou un exécutable. Vous utilisez HildaSM et vous pouvez voir le code intermédiaire qui est généré, donc le code qui est exécuté par la CLR.
Bon, c'est juste de l'assembleur, hein. C'est assez simple à comprendre. voilà. Moi j'utilise de temps en temps. Voilà. Il y a d'autres produits sur le marché qui existent, mais l'avantage de celui-là, c'est que finalement c'est un peu comme la spec, on l'a toujours sur soi.
Tout à fait. Hop. Alors, donc déjà, merci d'être venus si nombreux. Alors, pourquoi les lots, on ne va pas pouvoir les donner aussi facilement? C'est que, pour la petite histoire, au début, on pensait qu'il n'y aurait qu'une centaine de personnes. Et puis, il y a Eric Vernier, des évangélistes, qui est venu nous dire, il dit, il y a 850 préinscrits, et vous aurez le grand amphi. Donc, OK. Donc, du coup, on a pris quelques lots ici, et si vous répondez bien, bah, venez nous voir à la fin, et on vous les distribuera. Alors, 10.warrior égale true, pourquoi? Puisqu'on va vous poser quelques questions. Voilà. Et si le Visual Studio vous met en des petits traits rouges quand ça va pas, c'est moins drôle. Donc on va enlever.
Voilà, donc le mode Warrior, c'est je désactive underline errors et show live semantic errors dans Visual Studio.
Voilà.
Donc vous n'êtes pas obligé de faire ça au bureau, vous risquez de perdre un petit peu en productivité. Voilà. Mais pour le suspense pendant la session, ce sera plus intéressant.
Aussi connu sous le nom de mode Super Notepad. Alors, c'est parti. On va faire la première énigme et on va aller de manière assez croissante en termes de complexité. Donc typage explicite ou pas? Allez, j'arrête les slides. Vous connaissez tous var, le mot-clé var. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Et là, il y a un peu toutes les réponses. Alors, donc dans ce programme ici, je vais avoir deux chaînes de caractères, S1 et S2. Une que je déclare explicitement avec son type, c'est-à-dire string, et la deuxième que je déclare avec var. Voilà. Hop, on va faire peu importe ça. Je vais compiler, très bien. Alors la question, si on rebascule sur... ouais, tu fais un take. La question donc des deux, quelle est la déclaration recommandée? Alors on va lever la main, parce qu'on ne va pas faire personne par personne. Combien pensent que c'est var qu'on va recommander? Ok, on a un petit quart, petit tiers là, très bien. Et combien pensent que c'est la déclaration explicite, donc dans mon cas string, qui est mieux? Très bien. Alors pour la réponse...
Et qui pense que c'est aucun?
Oui, d'accord.
Ah, et comme quelques courageux.
Ok, on va revenir. Alors, donc je vais compiler mon code ici. Hop, voilà, on a créé, voilà, donc dans HildaSM, on va regarder ce qui est généré quand on utilise var ou une déclaration explicite, et en fait, que ce soit avec var ou avec string dans mon cas, c'est exactement la même chose qui est générée. Donc en termes de performance et d'IL, il n'y a vraiment pas d'influence, voilà. Donc la bonne réponse,
bah pour moi, c'est aucun, finalement, c'est un peu comme vous voulez. Comme votre équipe fait éventuellement, si vous avez des bonnes façons de faire dans votre équipe, mais ça n'aura vraiment aucun impact à l'arrivée sur le programme. Et en termes de lisibilité, il n'y a rien de bien clair. Moi, quand je vois var S2 égale Clément, ça ne me semble pas beaucoup moins clair que string S1 égale Luc.
D'ailleurs, si on met sa souris dessus, IntelliSense, c'est assez intelligent pour nous dire ce que c'est. Et voilà. Si je fais F12, je peux même revenir dans la déclaration du type.
Voilà. Ah, donc var, c'est ce qu'on appelle de l'inférence de type. C'est le compilateur qui devine à partir du membre droit de l'expression le type et qui utilise exactement ce type-là.
Alors, il y a un autre mot-clé qui est apparu, il me semble, en 2010. C'est le mot-clé dynamique. Donc, qui pense que dynamique, c'est pas mal à utiliser aussi au même titre que Enfin, la façon dont je pose la question, personne ne va répondre, c'est sûr. Qui pense que Dynamics c'est super et qu'on devrait l'utiliser plutôt que String et var? Une personne là-bas?
Il y en a un quand même.
D'accord. Et donc pas de l'eau pour monsieur. Je suis désolé. Alors, je vais ouvrir l'exécutable et on va voir en fait ce qui est fait quand on, quand on utilise Dynamics.
Une console Wireline S3 quand même.
Ouais, on va l'utiliser. Yes. Voilà, donc mon programme compile. Là, je vais aller dans IldaSM. Je vais ouvrir mon main. Et là, je vois qu'est-ce qui se passe. Donc, pour les deux premiers, ça va, tranquille. Hein, var, string, bon. Par contre, après, ça se complique. Quand on commence à créer un dynamique, oulala, voilà. Il y a plein de choses qui sont créées ici. On va faire de la réflexion, etc. Pourquoi est-ce que c'est le cas? C'est parce que dynamique, c'est un mot-clé qui va faire que tous les membres de l'objet qu'on a déclaré avec vont être évalués à l'exécution. Donc, c'est-à-dire qu'à l'exécution, par exemple, si je fais s3.length, le calcul de length, il va être utilisé, il va être fait au moment où j'exécute l'application. Donc il y a une sorte de réflexion qui est faite là. Autre désavantage, puisque ce n'est pas le seul, c'est que si je fais des fautes d'orthographe comme celle-ci qui est classique, je peux compiler mon application et le compilateur va dire que tout va bien. Enfin, s'il daigne compiler, voilà. Donc il va me dire que tout va bien et du coup je m'apercevrai des erreurs uniquement.
Alors quand on ne ferme pas ILDSM, ça ne compile plus.
Il est où ILDSM?
Il est à côté de Visual Studio.
Ah, il est là, il n'a pas de truc. Ah si. Ouf. Ok, donc là en fait j'ai fait une faute d'orthographe et mon code compile quand même. Par contre quand je l'exécute, je vais avoir un plantage puisqu'il ne trouve pas la méthode qui va bien. Donc en synthèse, on revient. Donc en synthèse, pour cette première énigme assez simple. IldaSM, donc c'est super pratique, etc. Var ou déclaration explicite, c'est pareil. Mais var et dynamique, c'est complètement différent. Donc réservez dynamique vraiment qu'au cas où vous en avez vraiment besoin, notamment lors de l'interop.
L'interop dans le langage dynamique essentiellement, si vous faites de l'Iron Python ou ce genre de choses.
Énigme 2, plus plus. Donc, on va passer la main à...
On va changer nos micros.
Ouais.
Il y a un micro qui est plus pratique que l'autre pour taper sur le PC. Alors, je pense que vous connaissez tous un peu l'opérateur plus plus. C'est pas celui de C++, c'est celui de I++ généralement. Et son pendant plus plus I. Donc, a priori, vous voyez la différence. I++, qu'est-ce que c'est? C'est je prends la valeur de I, je l'incrémente et je renvoie la valeur qu'il y avait avant dans I. Plus plus I, c'est je prends la valeur de I, je l'incrémente et je renvoie ce qu'il y avait, enfin, le résultat de l'incrémentation. Alors, notre petit énigme ici, c'est que fait ce programme exactement?
Je ne vais pas vous afficher la stack. Donc la réponse A, c'est est-ce que ça affiche 1? Réponse 2, est-ce que ça affiche 2? Ou réponse C, ça ne compile pas, puisqu'on est en mode warrior. Alors, 1.
Alors.
Ouais, 1. Ouais, ils sont pas sûrs de là. 2, 2. Ok. Donc il y en a plein pour qui ça compile pas, c'est ça? Non ou... Ok, on va voir.
Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça compile.
Donc ça compile, donc c'est pas la réponse C.
Et voilà. Ça affiche 1. Finalement, c'était pas un piège, c'était facile.
Voilà.
Parce que I égale I++, donc je prends I, je l'incrémente, ça devient 2, mais on me renvoie 1, et je le mets dans I, donc I vaut 1. Rien que de très logique, finalement. Mais en fait, c'est pas si logique que ça. Parce que c'est un des gros avantages de C Sharp, c'est que C Sharp, ça fait à peu près ce qu'on lui demande de faire. Et c'est pas le cas de tous les langages. Alors pour m'en persuader, j'ai fait un autre petit programme en C++. J'ai eu un peu de mal au début, ça faisait longtemps. Je me suis quand même mis en C++ CLR, pour être sûr que ça fasse vraiment la même chose, puis pour retrouver un peu mes billes en termes de méthode. Mais c'est le même programme. I égale 1, I égale I++, console write line de I. Les mêmes fonctions, etc. Et si je lance ça, j'ai deux.
Donc en fait, quasiment le même code en C++ ne donne pas le même résultat.
Voilà. Et en fait, ça c'est dû justement à une super spec du langage C Sharp, ce qui est vraiment d'être clair dans l'ordre d'exécution du code. En C Sharp, on a I égale I++. D'abord, on fait le calcul du I++ qu'on va affecter, et ensuite on fait l'affectation. En C++, la spec elle est vachement large. Et grosso modo, tout ce qu'on dit, c'est... Ok, I égale I++, je vais faire l'incrémentation du I vers la fin, je te promets que je le ferai avant le point virgule. Par contre, entre l'affectation et le plus plus, la spec est un peu floue, Et finalement, ça va dépendre du compilateur, et les compilateurs sont à peu près tous d'accord pour faire la version qu'on vient de voir. Par contre, la contrepartie, c'est que c'est plus optimisé. En fait, si on lançait ILDSM dessus, on verrait que le compilateur a carrément fait le calcul lui-même du I++, et la seule chose qu'il fait, c'est un console write line de 2, une constante 2.
Donc la réponse pour le C-Sharp, c'était 1.
Bon, vous n'étiez pas assez sûr de vous pour avoir pour un goodies, là. Hein.
Donc en synthèse, C-Sharp quand même spécifie les comportements de manière très détaillée, ce qui n'est pas le cas notamment de C++, où on peut avoir donc des comportements un peu différents. Bonne nouvelle pour les barbus, c'est la fin de l'échauffement, on va commencer à faire des énigmes un peu plus cossues. Pas beaucoup de barbus. On va faire un petit rappel, Clément.
Ouais, alors.
Donc c'est purement en préparation des énigmes suivantes, hein, c'est pas pour faire un cours magistral.
Donc moi, je vais vous rappeler un petit peu la différence entre les structs et les classes. C'est pas toujours évident, en plus ça dépend des langages. En C-Sharp, la différence, c'est que les structs, c'est ce qu'on appelle des types valeurs, les classes, c'est ce qu'on appelle des types références. Alors pour ça, premier truc, alors je vais mettre devant le PC plutôt, parce que je n'ai pas confiance dans ta souris. Qu'est-ce que c'est que la pile et le tas? Qui sait à peu près ce que c'est ici, pile et tas, c'est clair pour tout le monde? Ouais, peut-être pas complètement pour tout le monde. Hein. Donc la pile, c'est un espace mémoire, comme le tas. La pile est utilisée pour le stockage des variables locales des fonctions. Donc on reprend ça par une pile, parce que c'est une espèce de pile de boîte. Chaque boîte, c'est l'espace mémoire que va utiliser la fonction pour ses calculs locaux. Si j'ai une fonction, par exemple main, qui appelle deux autres fonctions, quand je vais lancer main va avoir son espace de stockage sur la pile, puis va appeler la fonction quelque chose, qui va avoir son espace empilé dessus. Quand on sort de la fonction, on dépile l'espace de fait quelque chose. On passe sur la fonction fait autre chose qui reprend la place disponible, ou plus de place ou moins de place selon l'espace dont on a besoin. Et enfin, quand on termine, on ressort, on dépile ce qu'il y avait, et à la fin, on dépile main. Le tas, par contre, c'est l'espace mémoire qu'on va utiliser pour tout ce qui est type référence. Le tas, c'est un espace mémoire. Alors, j'ai dit que c'était un espace global pour le processus, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des histoires de abdomen, etc. C'est plus complexe, mais on va dire que c'est pour le processus. Et cet espace, il va être alloué dès qu'on fait des new, grosso modo. Donc, l'espace, il est contigu, c'est-à-dire dès qu'on va louer une nouvelle variable, on va la mettre à côté de la précédente. Il est garbage collecté, c'est-à-dire que de temps en temps, on arrête tout, on regarde ce qui est encore utilisé ou ce qui n'est pas, via un gros calcul de graphe, et puis on va désallouer ce qui est plus utilisé. Et il est compacté, c'est-à-dire qu'à partir de là, on a fait des trous dans la mémoire, et on va déplacer tous les objets pour combler les trous, ce qui va permettre d'éviter la fragmentation et qui va permettre de travailler mieux dans le cache du processeur. Donc, un petit exemple. Je crée une classe utilisateur. Je fais un new user. Qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me créer un espace mémoire dans le tas pour mon utilisateur, et ça va me mettre sur la pile un pointeur, parce que les pointeurs finalement d'objets sont des structs, un pointeur un peu invisible pour moi, c'est utilisateur qui pointe vers l'instance de l'user sur la pile, sur le tas, pardon. Maintenant, je fais mon utilisateur.name égale Luc. Là, j'ai aussi un new, parce que un string, c'est un type référence. J'ai aussi un pointeur, parce que l'utilisateur va pointer sur le nom, mais le pointeur va se trouver dans l'espace mémoire de son objet parent, qui là est l'objet utilisateur. Et enfin, donc je crée Luc que je mets sur le tas. Et maintenant, je vais créer une datetime. Datetime, c'est un objet valeur, c'est un struct. Donc en fait, quand je crée mon objet datetime, je vais le créer sur la pile. Donc c'est le petit 28 novembre 78 qu'on voit en bas à gauche. Et si je fais utilisateur.birthdate égale LucBirth, à ce moment-là, je vais avoir non plus un pointeur vers la date de naissance, mais directement à la date de naissance, en dur en quelque sorte, dans l'espace mémoire qui a été alloué pour l'utilisateur sur le tas. Voilà. Alors, donc à partir de là, on va faire une petite démo. L'idée, c'est de voir un petit peu comment marchent les structs un peu plus en détail. Et puis d'essayer de vous faire réfléchir un peu par rapport à ça. Donc, alors moi, on m'a dit de faire un petit programme vraiment basique pour gérer la session, là. Donc, je vais me créer un visiteur. Et puis, visiteur, c'est vous. Hein. On m'a dit que les visiteurs n'étaient pas très gros, ne prenaient pas beaucoup de place en mémoire, et on m'avait dit que quand c'était pas gros, on pouvait faire des structs. Donc, je vais me créer un struct visiteur. Et puis, on m'a dit que, vu le monde qu'il y aurait à la session, il valait mieux être préinscrit dessus. Donc, je vais mettre un booléen. Voilà. Bon, tout le monde est d'accord avec ça? Ça vous pose pas de soucis? Si? Je me suis trompé sur un accent?
Non. Ah non, les accents c'est supporté.
Les accents c'est supporté. C'est moderne, hein,
On peut dire en Unicode. Vous pouvez même mettre des noms de variables en chinois.
Bon, après si vous mettez ça dans tous les systèmes de gestion de version, c'est pas dit que ça passe partout, mais bon. Non, y a pas de problème là-dessus. Bon, alors maintenant ce qu'on m'a dit, c'est que finalement tous ceux qui étaient dans la salle, bon, qu'ils étaient préinscrits ou pas, on s'en fichait, parce que de toute façon ils sont là. Donc on va dire qu'ils sont préinscrits quand même. Pas de problème?
Remarquez comment ils sont à l'affût de tout là.
Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Alors trou, ça s'écrit bien comme ça. Et pourtant, ça ne compile pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Il me dit, j'ai pas le droit d'initialiser un champ dans un struct. Directement. Aïe. Tout le monde le savait, ça? Non, vous faites jamais des structs, hein, c'est ça? Bon, eh bien, moi je vais le contourner. Je vais créer mon constructeur. Ah, il n'y a pas de raison que tu m'embêtes, là. Hein. C'est le genre de code qu'on fait tous les jours. Hein. Mince. Là, c'est une autre erreur. J'ai pas le droit de définir de constructeur explicite sans paramètre dans un struct. Vous saviez? Non. Alors, à quoi ça sert, ça? Ça sert à s'assurer que les structs, on peut les initialiser en mettant juste des zéros dedans. Ça va permettre à la CLR, donc à la machine virtuelle, dès que vous allez créer un objet, plutôt que de s'amuser à lancer plein de constructeurs dans tous les sens pour essayer de l'initialiser au départ, bah je mets plein de zéros dedans et ça va fonctionner. Ça va permettre de gagner énormément de temps. Donc on fera ça, sauf si j'ai des constructeurs définis. Surtout que, bah vous souvenez un peu du schéma que je vous ai montré tout à l'heure, grosso modo, tout est struct. Parce que les choses, ce sont soit des structs, soit des types références. Mais un type référence, c'est un pointeur qui est un struct, qui pointe vers un espace mémoire qui va contenir que des structs ou d'autres pointeurs vers d'autres classes. Donc finalement, tout l'espace mémoire peut être initialisé quand on définit l'initialisation des structs. Voilà, alors, bon, donc on va dire que je vais, hop, accepter de retirer mon truc, je vais mettre boule et pré-inscrit. Bon, est-ce que ça passe pour tout le monde? Bon, là, il n'y a pas de piège, ça passe, cool. Alors, maintenant, on m'a dit que les visiteurs, c'était bien beau de les mettre comme ça, mais ça ne sert à rien si je ne suis pas capable de savoir qui est derrière. Donc, je vais mettre un nom sur mes visiteurs. Alors. Donc, je ne vais pas mettre égal nul parce que je sais que ça ne passe pas. Maintenant, j'ai compris. Et puis, je vais mettre un nouveau constructeur. Oups, là. Bon, tout le monde est d'accord avec ça ou pas? Donc là, c'est là que est notre énigme. Normalement, vous êtes censé avoir compris après comment marcher les structs. Donc l'énigme, c'est
est-ce que le code qui vient de faire compile?
Compile, donc, oui, non.
Ça dépend des options du compilateur ou vous ne savez pas c'est quoi compiler. Après, à ce moment, si c'est votre réponse, la D, ben, vous pouvez sortir, il y a peut-être des gens qui attendent en fait.
On va repasser sur mon code peut-être pour qu'ils puissent regarder à nouveau.
Voilà.
Ah, c'est écrit un peu gros, on voit rien. Voilà.
Bon, à prendre les réponses. Qui dit que ça compile? Et les mains, elles sont un peu comme ça.
Un peu plus là. Il y en a okay.
Qui dit que ça compile pas?
Très bien. On en prend un hasard pour savoir pourquoi ça compile pas?
Non. Bon. De toute façon, ça prendrait trop de temps, donc on va voir. Est-ce que ça compile ou pas?
On va essayer. Hein. C'est la meilleure façon de savoir.
Et non.
Build failed.
Oh.
Alors pourquoi ça compile pas? Parce qu'il me dit, j'ai pas initialisé non. Il est un peu chiant quand même, hein, parce que tout à l'heure il me disait, t'as initialisé, il fallait pas, maintenant t'as oublié d'initialiser. En fait, c'est ici que j'ai pas initialisé. Quand on fait un constructeur pour un struct, on s'engage à initialiser tous les champs. Grosso modo, on a dit, bon, la remise à zéro du champ, tu t'en occupes pas, c'est moi qui vais le faire. Mais à ce moment-là, si tu dis que tu le fais, tu t'en le fais jusqu'au bout. Donc je suis obligé ici de prendre mon champ et puis de mettre, donc, hop, non, égale nul. Et si je fais ça, ça va compiler.
Ok. Donc, la réponse était non. Alors, en synthèse, donc, on voit que le compilateur, il est quand même assez intelligent.
On n'avait pas fini un truc
parce qu'on n'est pas super à l'heure en fait.
Donc, tant pis, c'était marrant.
Donc le compilateur s'est assez bien déterminé les chemins de construction. Donc il a su quelque part savoir qu'on n'a pas initialisé tous les champs dans les constructeurs. C'est un mécanisme fondamental de .NET en fait. C'est ce qui permet d'être sûr que quand vous avez votre programme, que vos variables sont bien initialisées aux valeurs par défaut. Et on va faire un dernier truc parce que vraiment Clément trouve ça marrant.
Alors moi ce que j'aime bien c'est la construction d'un visiteur par copie. C'est fait qu'on puisse faire ça. 10 égale V. Et ça, ça compile. Ce qui est quand même pas toujours évident quand on a l'habitude de faire des classes. C'est-à-dire que je dis grosso modo, bah, tu prends tous les champs et tu recopies le visiteur d'à côté. Voir, j'aurais pu faire 10 égale new visiteur v.préinscrit v.non.
Ça c'est rendu possible parce qu'on est sur des types valeurs, donc on copie tout.
Voilà, essayez de faire ça sur une classe, vous allez voir ce qu'il vous dit.
Je dirais que ça marche pas en fait.
Ouais, il est poli.
Et donc c'est super pour impressionner en soirée, hein, n'est-ce pas Clément? 10 égale new, je trouve ça vraiment top. Alors. Alors. Donc, passons à l'énigme suivante. D'ailleurs, un petit rappel déjà, très très rapide, sur les propriétés. Donc quand vous faites une propriété ici, hop, bah voilà, surprise, spoiled. Bon, quand vous faites une classe, par exemple utilisateur, un nom, un prénom, est-ce que vous savez ce qui est fait pour le get et le set? Qui ne sait pas trop et qui pense que c'est fait tout seul en fait par .NET, machin. Personne ne va répondre parce que j'ai encore mal posé la question. Alors, hop, on va voir là, bin, debug, tac, ildasm. Là, on a donc, oui, je suis allé un peu vite. On a notre utilisateur ici qui a un nom, un prénom, getSet, voilà, des chaînes. Que va faire notre compilateur en fait quand il va voir utilisateur? Eh ben, il va faire ce que vous faites quand vous utilisez pas le, quand vous le faites à la main finalement. C'est-à-dire, il va créer un membre privé avec la valeur de votre champ et il va créer un peu comme un autre langage assez proche de C#. Il va créer des accesseurs et des setters automatiquement pour vous. Donc la convention étant get underscore et set underscore.
Et ça, c'est des fonctions standards, en fait.
C'est des fonctions standards. Alors, c'est renforcé aussi, parce que si vous essayez de faire une méthode qui a le même nom, il va vous dire, OK, je prends ta méthode, mais du coup, moi, je ne peux plus compiler. Donc, c'est interdit. Voilà. Donc, ça, c'était pour le rappel, pour les propriétés. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une propriété, finalement, quand vous faites un set ou un get dessus, c'est un appel de méthode. Ce qui nous amène... Cheat sheet. Ce qui nous amène ici à une énigme, donc là qui est quand même un peu plus intéressante, on va dire. Alors, je vais créer, on va dire, mini site. Voilà. Donc, je vais créer donc
un site web en mode console.
Un site web en mode console, exactement. Donc, on va faire une classe user. Voilà, prop string nom. Tu me surveilles là, ça me fout la pression. Alors, struct, et on va créer un panier évidemment, puisque sinon le site ne sert pas à beaucoup de choses. Donc dans le panier, on va faire un membre public et réglé avec un accent. Public.
Et ça marche.
Voilà, et ça marche. Règle avec un autre accent. L'accent grave passe aussi. Et R réglé égale true. OK. Donc, par contre, là, il ne sert à rien si je ne fais pas. Voilà. Et je vais me faire un petit constructeur qui va initialiser un panier. Histoire de bien partir. Voilà. Donc, est-ce que ça paraît suspicieux à quelqu'un là pour l'instant? Je vous rassure, en fait, il n'y a rien de... Voilà, donc ça, normalement, ça compile. Ça compile. Donc maintenant, je vais me créer un utilisateur. Moi, j'aime bien var. Voilà. Ce sera Clément. Hein. Et cet utilisateur, donc, on va afficher le contenu de son panier. Write line avant, parce qu'il y aura un après. Hein. 10, c'est user.panier.est réglé. Voilà. Il va y avoir un après. Et entre les deux, je vais faire que Clément, il va régler son panier.
Je suis honnête,
panier, pardon. Voilà.
Bon.
Voilà. Donc en termes de quiz.
Qu'est-ce voilà. que ça affiche?
Donc, est-ce que vous voulez revoir le programme? Ouais, on va revoir le programme. Hein. Donc on a false, 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 true. C, c'est n'importe quoi de toute façon. Alors, hop. Et le dernier, c'est tout autant n'importe quoi. La réponse D, ouais. En fait, donc voilà, est-ce que ce programme, donc je vais grandir peut-être un peu. Voilà. Et je suis vraiment désolé pour les gens sur Internet qui essayent de répondre devant leur écran et on ne peut pas voir ici, quoi. Bon. OK. Alors, false, 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 true, false, nulle référence, exception.
Alors. False, false, qui?
False, false, qui? OK. False, true. OK, il y a un petit peu plus de false, true.
Et il y a beaucoup de nulle référence, exception, apparemment.
Voilà. Et qui a dit la réponse D? Non, OK. Eh bien, bonne réponse. Donc, allô pour monsieur, là, qui a eu la bonne réponse en premier. Non, c'était pas lui, d'ailleurs.
Ouais, je sais pas
qui. Tu repasseras.
Ouais, voilà.
OK.
On a un peu de rab, on peut se tromper.
Alors, du coup, là, je suis dans mon programme. Je donne ça. Et puis, le mec du test, il me dit, c'est n'importe quoi ce que tu as fait. Et je lui dis, bah, pas plus que d'habitude, en fait. Mais bon, OK. J'avance. Je vais mettre en mode pas à pas. Donc, voilà. User.panier, panier. Hop, je vais utiliser mon petit espion. User.panier.est réglé. Voilà, false, j'avance. Il règle, là, et dans règle, qu'est-ce qu'il fait? Il passe, tac, est réglé, et bien true. Je continue, tac. Et là, il vaut false, là. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on sait, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, on va se rappeler les deux rappels un peu longs qu'on a eu tout à l'heure. Déjà, on a une structure qui est le panier, et d'autres, on passe par une propriété qui est panier ici, donc on passe par un get underscore panier et set underscore panier. Donc du coup, je pense que je me suis planté, mais vraiment beaucoup, parce que quand j'ai initialisé un panier dans mon constructeur ici, quand j'ai fait New York Clément.
Ouais. En fait, ce qu'il faut voir, c'est voilà. Comme c'est des structs, la propriété des structs, c'est d'être passé toujours par valeur. Donc dès qu'on passe une struct d'une fonction à une autre, on en passe finalement une copie.
Voilà, donc quand
on ne peut pas manipuler un pointeur, il n'y a pas de pointeur.
Donc quand je fais panier.rrégler ici, on fait une copie du panier d'origine, on le règle, après on sort de la portée, donc il est sorti. Là, je prends un autre panier, je le règle, ok, super. Et là, j'en prends encore un autre, je le règle et après je le jette. Mais donc, au final, ce qui est écrit, en fait, on n'a jamais touché notre vrai panier. On a eu au moins 4 instances différentes.
Voilà, en fait, on a eu en mémoire 4 paniers. Le premier est celui qu'on a créé, celui qu'on a regardé la première fois, celui qu'on a réglé et celui qu'on a regardé la deuxième fois. Donc finalement, on n'a jamais touché à notre panier d'origine, donc on n'a jamais rien réglé. Comment? Non, en fait, l'idéal, on va le voir après, mais ça aurait été de faire en sorte qu'on fasse des copies du panier, mais qu'on ne les passe pas par la propriété. Et pour ça, le mieux, c'est que les structures soient read-only, que tous les champs dans la structure soient read-only. Comme ça, on est sûr que jamais on va aller manipuler une structure existante et qu'on fait toujours des copies. C'est ce qu'on a quand on a un datetime, par exemple, qui est une structure. Datetime, on ne va jamais modifier le mois d'un datetime existant. On va créer un nouveau datetime en disant je veux prendre le jour, le mois et l'année de cet autre datetime.
Alors, bon, sinon en synthèse, donc les objets valeurs.
Y a des gros avantages à utiliser les objets valeurs quand même. On a vu qu'il n'y avait pas de pointeur, il n'y a pas de garbage relation, donc ça veut dire que quand vous faites des calculs mathématiques avec des ints qui sont des structs, par exemple, il n'y a pas besoin d'aller garbage collecter les 345 entiers que vous avez créés, et ça va faire gagner énormément de temps. Pas d'indirection de pointeur, quand je fais A plus B, pas la peine d'aller regarder 3 pointeurs pour voir où ça va, qu'est-ce que je récupère, où est-ce que je le mets. Par contre, on manipule par copie, donc si jamais mon struct est un peu gros, je passe mon temps à faire des copies de gros objets. Si je passe mon struct de fonction en fonction 10 fois, je vais avoir fait 10 copies de mon struct. Et puis, comme on vient de le voir, on peut avoir des bugs vraiment chauds à diagnostiquer si on commence à faire n'importe quoi. Donc pour ça, la préconisation, struct uniquement pour les objets de petite taille. Moi, je fais pas mal de programmes de géographie. J'ai eu un struct pour longitude, un struct pour latitude, un struct pour position géographique qui contient un de chaque, mais pas plus. Et finalement, ça, c'est un struct qui va contenir 2 doubles, et c'est pas la peine d'aller plus loin. Et une vraiment bonne préconisation, je pense, c'est de faire en sorte que tous les structs soient entièrement read-only. Toutes les propriétés qu'on va mettre dans un struct, tous les membres, on les met en read-only. Et quand on veut modifier un struct, en fait, on fait une copie de ce struct-là. en mettant des nouvelles valeurs sur les propriétés. Et ça, ça permet, finalement, la plupart des trucs dans .NET sont comme ça, point, date time, etc. Et ça permet d'avoir un langage clair et de ne pas se tromper sur ce genre de bêtises. Quoi.
Okay. Alors, donc, c'était pas mal déjà, il y a plus de gens qui se sont trompés, ce qui est notre, quand même notre objectif. Alors, prochaine démo, C# dans tous ses états. Tu peux me switcher. Alors, qui connaît ici le mot clé yield, enfin, les mots clés yield return? Voilà. Qui l'utilise absolument tous les jours? Ah, les menteurs.
Qui a l'impression de le connaître, mais pas vraiment de le maîtriser, de ne pas savoir ce que ça fait? Ah, il y en a quand même quelques-uns.
Alors, bah, je vais faire un exemple de yield return pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ou ceux qui ne l'ont pas utilisé depuis longtemps. Get names. Alors, yield return. Deux. Yield return, en fait. Bah non, en fait, c'est l'énigme, donc je ne vais pas vous le dire tout de suite. Hop. L'énigme, c'est quoi la question? C'est bien celle-là. Voilà.
C'est Clément en premier, c'est moi qui avais fait le...
Ah, bon. Bon, sinon, ça va. Ça casse la slide, c'est ça? Hop. Ouais, comme ça, il est content. In. Get names. Qu'est-ce que j'ai oublié?
Pas de statique.
Voilà. Console.writeLine de str. Voilà. Donc, quelle est la sortie de ce programme? Donc ça écrit nom 1, nom 2, Clément, Luc, nom 1, Clément, nom 2, Luc, Clément, Luc, nom 1, nom 2. Alors on va rebasculer sur le programme, c'est pas pratique. Voilà ceux qui maîtrisent le yield return. Donc qui dit que ça renvoie nom 1, nom 2, Clément, Luc? Nom 1, nom 2, Clément, Luc. Ok. Un petit 15% là. Nom 1, Clément, nom 2, Luc.
Ils sont pas beaucoup plus nombreux. Hein.
Voilà, Clément, Luc tout court. Et nom 1, nom 2, il devrait y avoir autant de monde logiquement, mais non. Bon, ok. Alors, ce que ça fait, ça écrit nom 1, Clément, nom 2, Luc. Alors, à quoi ça sert yield return en fait? Donc là, il y a quand même moitié qui ont eu bon, je dirais. Donc, ce que ça fait...
Pas mieux, c'est de faire un pas à pas, non?
On fait un pas à pas, ouais. On va se mettre, hop, F5, F8, pardon. Tac. Bonjour.
Ça compile?
Si. Mais ils ont peut-être changé le... Bon, on va se mettre ici. Hop. Là. On va le faire dans le for each. Stoop. Donc, on va appeler getNames. Voilà. Alors, zut, je me suis gouré de touche. On recommence. Fonce, getNames. Voilà, donc on rentre dans getNames, on affiche nom 1. Yield return, donc il renvoie Clément, il affiche Clément, il prend le prochain dans getNames, et en fait il a repris le code en plein milieu, là vous avez remarqué, il est rentré dans la méthode getNames, mais il a repris directement là où j'en suis là, et il renvoie Luc ensuite. Donc on a bien nom 1, Clément, nom 2, Luc.
Et continue à retourner dedans.
Voilà.
Il revient encore une dernière fois dedans.
Donc il y a quelque chose quand même normalement, d'assez intéressant sur ce comportement, notamment parce qu'on a repris en plein milieu d'une méthode qu'on avait quittée tout à l'heure.
Voilà, donc moi je vais essayer de vous expliquer ça, mais d'abord on va faire un petit retour à nos études d'ingénieur.
Ou pas.
Avec, ou pas, ouais, pour ceux qui ont fait l'université comme lui. Sans aucune pensée pour qui que ce soit, hein, aucun a priori, hein, on n'en est plus là. Donc sur les machines à état. Donc les machines à état, qu'est-ce que c'est? Donc c'est là que je sors ingénieur, bah, c'est des petits ronds et des flèches. Alors je vais vous faire un petit exemple de machine à état. En fait, les ronds, c'est ce qu'on appelle des états, et les flèches, c'est des transitions. Donc ça, c'est une machine à état virtuelle, un peu complexe, quoique, avec 5 états et des transitions qui permettent de passer d'un état à l'autre. Et en fait, c'est vachement intéressant à étudier ce genre de choses, et c'est grâce à ça qu'est implémenté le yield return. Concrètement, le compilateur, quand on va faire un yield return, il va créer une machine à état. Cette machine à état, il va dire que chaque état, c'est un des points dans lesquels je peux rentrer dans la fonction. Donc là, quand je prends mon code ici, j'ai un premier état qui est l'entrée naturelle dans le code. Et chaque yield return, j'ai un autre état qui va se situer juste après. Donc là, j'ai trois états dans ma fonction. Un à l'entrée, un après le yield return Clément, un après le yield return Luc. Et trois transitions. Les transitions, c'est le code que vous avez mis dans la fonction et qui se situe entre les différents états. Donc derrière, le compilateur va créer une classe qui implémente cette machine à état et qui implémente iEnumerable de string. Le moveNext sur ce iEnumerable, donc le moveNext c'est la fonction qui permet de passer à l'objet suivant dans un enumérateur, il va exécuter le code et se souvenir de l'état dans lequel il est. Et le current va renvoyer l'objet. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu le code correspondant qui a été généré par le compilateur.
Voilà.
Voilà. Donc, pour notre fonction, le compilateur en fait nous a créé déjà une classe getNames d underscore underscore 0, c'est des classes avec des noms réservés, qui sert à implémenter la fonction getNames qu'on a fait. Si on regarde un peu le code de ce getNames, déjà au niveau des membres, donc on voit le moveNext ou le current qui correspondent à l'énumérateur, donc le getCurrent qui est là. Et puis on voit aussi un entier stat. Donc là on commence à voir que ça ressemble un peu à une machine à état comme j'ai expliqué. Et au niveau du code, en fait, au démarrage de la fonction, si je ne me trompe pas, donc il faut regarder la méthode moveNext. On regarde, donc pour tous ceux qui maîtrisent l'IL facilement, en tout cas, ici, il va faire un switch sur le paramètre set, et en fonction de ce switch, il va faire des branches, donc des goto, concrètement. Goto, les différents états qu'il a identifiés pour l'implémentation de cette fonction. Voilà, donc je ne vais pas rentrer plus en détail là-dedans, mais ça vous explique un peu mieux comment marche le yield return. Et puis là, on commence à voir aussi que finalement, j'ai fait un tout petit bout de code assez propre, assez petit, et derrière, le compilateur a commencé à me sortir des gros trucs, et on voit qu'il fait beaucoup de travail pour moi.
Il y a think await que j'ai mis déjà.
Alors, une autre utilisation de machine à état, c'est les mots-clés await et think. Donc je pense que vous avez entendu parler de ça, c'est une des nouvelles fonctionnalités de C Sharp 5. Pour ceux qui ont fait pas mal de Silverlight, vous avez dû avoir beaucoup de mal à traiter tous les appels asynchrones qui sont un petit peu difficiles à traiter en Silverlight. Et ça devient beaucoup plus facile en C Sharp 5. Donc on a ces nouveaux mots-clés, async, qui permet de déclarer une méthode comme une méthode asynchrone, et await, qui permet d'appeler une méthode asynchrone. Concrètement, là j'ai fait une implémentation de copyfile qui fait une copie de fichier. Donc j'ouvre deux streams, un en lecture, un en écriture. J'alloue un buffer, donc rien que très normal. Sauf que au lieu de faire mon read comme d'habitude, je fais un await read async. Cet await, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler au read async, qui va faire un read, qui va tenter de le faire éventuellement de manière synchrone, mais s'il s'aperçoit que ça va être trop long, il va dire, bon, bah, je vais le faire de manière asynchrone. Je vais te renvoyer, non pas le résultat, mais un awaiter. L'awaiter, c'est un petit bout de code, une classe, qui va attendre que la tâche de lecture soit terminée, et qui, une fois qu'elle est terminée, va dire, bah, on va reprendre le code là où on en était, à l'état où on était dans la fonction, et il met l'appel de ce code-là dans le dispatcher, donc dans la queue de message de Windows. Ce qui fait concrètement, je vais arriver, je vais faire mon read, il va dire, ok, je suis en train de faire le read, tu ressors de la fonction, tu traites tes messages, les inputs de l'utilisateur, peut-être d'autres fonctions asynchrones, quand j'aurai terminé, je te rappellerai. Et quand j'ai terminé, je reviens exactement là où j'étais, je reviens sur mon numread et j'appelle le write de manière asynchrone, pareil, je dégage, je continue à faire mon traitement et quand il aura terminé, il me rappellera et je reviendrai là où je suis. Donc on a encore cette notion de je rentre dans ma fonction et j'en ressors à plein d'endroits. Et donc quand je compile ça et que je regarde à quoi ça ressemble, voilà, je crois que celui-là je l'avais mis pour ne pas m'encombrer en build action none. Dans ILDSM, on se retrouve donc avec CopyFile, toujours une nouvelle classe qui a été créée, qui est le pendant de ma méthode CopyFile. Et dans cette classe, alors là c'est encore plus clair, on a carrément une fonction setStateMachine, donc là on voit vraiment que c'est une machine à état. Toujours le moveNext et le current, enfin le state en tout cas, qui permet de savoir où on en est. Voilà, donc là on sent un peu, hop là, on sent la puissance du compilateur et tout le travail qu'il va faire pour nous.
Donc en synthèse, Donc là, on a vu juste un petit yield return ou un petit async await. Finalement, ça génère énormément de code qui fait des choses complexes, puisqu'on a de la reprise. En fait, votre méthode, elle est un peu, entre guillemets, scindée en plusieurs morceaux. Et ça, c'est complètement transparent pour vous. Donc ça, c'est généré par des machines à état. Donc yield return et async en sont de très bons exemples. Et là, on commence vraiment à apprécier la sophistication du compilateur, puisque évidemment, ceux qui ont fait du Silverlight avec les différents patterns d'asynchronisme ont compris que ce n'était pas forcément évident, donc l'aide du compilateur est vraiment la bienvenue dans ce cas-là. Donc on arrive à la plus grosse énigme, puisque le temps avance quand même relativement vite, dont le titre ne vous indiquera absolument rien du tout en fait. Bon, on va y aller. Pour la petite histoire, c'est cette énigme-là en fait qu'on avait envoyée en interne, donc dans l'équipe, dans notre équipe, l'équipe où on est avec Clément. Et qu'on avait envoyé ça, et finalement il y a plein de gens de l'équipe qui ont répondu avec pas beaucoup de gens qui avaient bon non plus. Donc on s'est dit ce serait super de faire une session là-dessus, maintenant il faut trouver d'autres énigmes. Alors, je vais vous décrire le programme en question. J'ai une classe personne, avec chaque personne a un âge, un nom et une action. Pour ceux qui ne savent pas, une action c'est simplement un pointeur de méthode, c'est-à-dire que chaque personne pourra avoir sa propre méthode qu'il pourra exécuter, voilà, qui lui est propre. Donc j'ai mon programme ici, je crée une liste de personnes. Cette liste de personnes contient Alice, Bob, Charlie, Dave, avec des âges respectivement de 10, 11, 12 et 13 ans, donc c'est juste une liste. Ensuite, je vais parcourir cette liste de personnes et je vais mettre là, dans ce cas, les actions de chacune des personnes. Donc ça veut dire que chaque personne, si j'appelle par exemple la première personne point action, il va exécuter le code qui est défini dans la lambda ici, donc console-write-line, donc voilà. Ça fait partie de l'énigme. Ensuite, donc une fois que j'ai déclaré les noms, les âges et les actions de chacune des personnes de cette liste, je vais reparcourir la liste des personnes et leur demander d'effectuer leur action, donc pr.action. Alors, l'énigme. Voilà.
Qu'est-ce que ça affiche ?
Qu'est-ce que ça affiche ? Donc, on va revenir au code. Alors, attends, tu as 10. De toute façon, on l'a ici. On l'a ici. Ouais, on remet le code, on remet le code.
C, il y a beaucoup de C ?
Alors, vraiment, il y en a qui ont déjà eu le souci. On va voir ce que ça fait. Donc, la première réponse, c'est A. Alice a 10 ans, Bob a 11 ans, Charlie a 12 ans, Dave a 13 ans, donc chacun leur tour. Réponse B. Alice a 10 ans, 4 fois. Réponse C, pour les malins, Dave a 13 ans, 4 fois. Ou réponse D, ça ne compile pas. Alors, qui dit Alice a 10 ans, Bob a 11 ans, une personne. Ok, il n'y a pas beaucoup de monde quand même. Bon. Qui, réponse B, Alice a 10 ans, 4 fois. Ok, encore moins, c'est une peut-être là-bas. Et maintenant, pour les malins, C, Dave a 13 ans plein de fois. Ouais, je suis trop fort en C-Sharp. Ok. Et bah perdu. Donc bravo pour la personne là-bas. Je ne sais pas si elle a fait exprès, mais en tout cas, ça a écrit Alice a 10 ans, Bob a 11 ans, Charlie a 12 ans, voilà. Donc en fait, ça fait ce que je veux que ça fasse, finalement, puisque... Console WriteLine ici va afficher donc le nom de la personne que je suis en train de parcourir, etc. En fait, c'est plus compliqué, mais on va voir ça juste après.
Et pourquoi ils sont tous trompés ?
Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà trompés et ils ont dû se faire réprimander. Hein, déjà. Alors. Voilà. Alors maintenant, je vais faire le même programme. Oh yes ! Eh oui ! C'est possible ! Voilà. J'ai le même programme, j'ai copié-collé, je vous promets, mon collé, il est normal, hein. Il n'y a pas de... voilà. Et dans Visual Studio 2010, j'ai pas le même résultat. Donc là, vous avez le droit à 2000 euros pour les gens qui ont eu, la bonne mauvaise réponse.
Donc, pas pour tous. Hein. Voilà.
Donc en fait, la bonne réponse, c'est qu'il y en avait deux. Donc on a ce qu'on appelle un breaking change dans le compilateur sur ce cas ici. Donc on va aller plus en détail sur le pourquoi du comment.
Ouais, moi je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Bon, ça c'était pour s'y deux. Alors pour ça, je vais essayer de vous expliquer comment ça marche. Parce qu'en fait, c'est pas si simple, même pour le compilateur, de faire marcher le petit bout de code qu'on avait. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez un peu ce que je vous ai expliqué sur les structs tout à l'heure. Je vous ai dit que les variables locales des fonctions, elles étaient stockées sur la pile. Sauf que mon action, potentiellement, elle va avoir une durée de vie qui est bien supérieure à l'exécution de ma fonction qu'il a créée. Donc, si je réessaye d'accéder à mes méthodes, qui étaient à mes propriétés, enfin mes membres qui étaient stockés sur la pile, potentiellement, ils ont disparu depuis longtemps. Donc, il faut que le compilateur implémente une astuce pour faire vivre plus longtemps ces variables. Alors pourquoi enfin, comment ça marche pour ça? En fait, il va créer pour chaque scope de ma fonction une classe qui va servir à stocker les variables. Donc là, j'ai fait une implémentation peut-être un peu plus simple de la fonction d'avant. Pourquoi plus simple? Parce qu'on n'a pas l'énumérateur avec toute la mécanique que ça tire. Mais grosso modo, donc, j'ai un tableau Alice, Bob, Charlie. Je vais afficher un message qui est hello, le nom de la personne. Je vais d'abord, je vais parcourir mon tableau et pour chaque nom, je vais associer une action dans les actions. Donc je parlais de scope. En fait, j'ai un premier scope sur ma fonction. Le scope, c'est donc la portée. En C sharp, c'est symbolisé par les accolades. Donc le premier scope, c'est le scope de plus haut niveau dans la fonction, que j'appelais main underscore scope 1. Donc dans ce scope, j'ai message format et j'ai action. Et j'ai un deuxième scope, qui est le scope à l'intérieur de la boucle, qui lui va contenir name. Et en fait, à chaque fois que le compilateur, enfin que votre code va rentrer dans un scope, on va créer une instance de la classe qui sert à stocker les variables de ce scope. Donc quand je rentre dans main, je vais créer mon premier message en rose qui va contenir mes deux variables. Et à chaque fois que je vais rentrer, donc dans chaque tour de boucle de ma boucle, je vais créer une nouvelle instance de mon deuxième scope. Et ici, je vais avoir trois scopes différents, donc trois instances différentes. Et ici, donc, je vais avoir le résultat qu'on attend, c'est-à-dire que je vais avoir Alice, Bob et Charlie qui ont chacun leur espace de stockage. Ça, c'est le résultat qu'on a dans Visual Studio 2012. Pardon. En 2010, on a une petite différence, c'est que le name qui était avant dans le boucle, dans la boucle, je l'ai sorti. Il est déclaré juste au-dessus. Ça, c'est le code qu'émettait Visual Studio 2010 pour faire les boucles. À ce moment-là, on voit que le name, il n'est plus dans le scope de la boucle, il est dans le scope principal. Et donc, je me retrouve avec action qui va pointer à chaque fois sur son scope vert. Le scope vert pointe sur son scope parent, mais j'ai un seul objet qui va contenir le contenu de mon scope principal. Et à chaque tour de boucle, finalement, je vais aller écraser la valeur de name. Et finalement, la variable name, elle est partagée par chacun des objets créés dans chacun des tours de boucle.
Ça va, tout le monde a compris? Ok.
Donc. Bon, voilà, donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que l'éclosure, donc cette méthode qui permet d'accéder à des variables déclarées dans ma méthode parente depuis une lambda, c'est super pratique, on l'utilise vraiment facilement. On a l'impression que c'est naturel, et en fait, ça n'est pas du tout. Derrière, le compilateur, il met en place toute une mécanique pour réussir à faire fonctionner ça. Et c'est intéressant de savoir comment ça marche, justement, pour les petites erreurs comme on avait là. Cette petite erreur et cette façon de travailler qui est différente entre Visual Studio 2010 et 2012, c'est ce qu'on appelle un breaking change. On fait en sorte de ne pas en avoir trop d'une version à l'autre du compilateur, parce que potentiellement, ça peut casser vos programmes existants. Celui-là, on a pensé que c'était pas trop grave, parce que grosso modo, à chaque fois que vous avez utilisé ça, vous vous êtes trompé plutôt que ça vous a réparé quelque chose. Donc, généralement, les gens qui tombaient sur le problème en 2010, hein, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils recréaient une variable intermédiaire qu'ils mettaient à l'intérieur de la boucle. Si vous avez fait ça, bah, ça va continuer à fonctionner en 2012. Et puis, ceux qui n'avaient pas vu le problème, bah, ça va réparer leur programme sans qu'ils ne s'en soient jamais rendu compte.
Voilà. Donc, en fait, c'est un cas très rare de breaking change. Donc, pour la petite histoire, ça, c'est arrivé sur un projet donc, où je créais, donc en Silverlight, je crois, je créais des items de menu où j'itérais, je faisais une boucle, je créais un item de menu par exemple, document dans les fichiers récents. Et ce que je me suis rendu compte, c'est quand je cliquais, ça ouvrait tout le temps le même document et que le label était tout le temps le même aussi. Voilà. Donc du coup, on l'a corrigé de la manière qu'a énoncé Clément, c'est-à-dire en déclarant la variable au sein de la boucle. Donc ça peut arriver.
Voilà, donc conclusion.
Donc là, on arrive bientôt à la fin de la session, ça passe assez vite. Donc le langage C# a énormément évolué depuis sa version 1. La CLR aussi, mais on se rend compte que les évolutions du langage, donc par exemple, on a vu var, on a vu les closures, on a vu yield return, on a vu async await, etc. Finalement, la CLR elle-même n'est pas vraiment prise en. Enfin, c'est pas vraiment des fonctionnalités de la CLR, à part peut-être le wait qui utilise les tasks, donc ça c'est plutôt le framework. Oui. Mais pour le reste, finalement, le code qui est généré par le compilateur, même C-Sharp 5, grosso modo, ça fonctionnerait toujours sur une.
Il n'y a pas eu besoin de support spécifique de la CLR. C'est pour ça d'ailleurs que la CLR numéro 2 est restée très longtemps. En C-Sharp 3.5, c'était encore la CLR 2. Et les évolutions de la CLR sont beaucoup moins courantes que les évolutions du langage du compilateur.
Voilà. Donc en fait, le compilateur évolue aussi pour vous permettre d'être plus productif tous les jours et vous facilite la vie et vous évite justement d'avoir à écrire vous-même vos machines à état ou vous-même vos opérations asynchrones difficiles à suivre.
Donc finalement, tout ce qu'on a dit, c'est pas vraiment utile, parce que justement, on n'a pas besoin de savoir comment ça marche. Moi, ce que je trouve vraiment appréciable, c'est de savoir tout ce que fait le compilateur pour nous et tout le boulot qu'il nous évite. Et il suffit de voir les programmes qu'on faisait il y a un an en Silverlight et la façon dont on réécrirait ça aujourd'hui avec Async Await pour vraiment apprécier d'avoir un compilateur vraiment puissant.
Voilà. Alors, il y a une énigme surprise après. Bon, déjà, notez. Et après, vous avez quelque chose, ouais, parce qu'il nous reste 8 minutes. Donc, je pense que ceux qui trouvent là, ils ont un cahier, un super cahier. On n'en a que 6. Voilà.
Donc, les premiers qui veulent venir nous répondre ce que ça a écrit, ce truc-là, vous venez nous voir et puis on distribue les goodies qui restent.
Sans le compiler, hein, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, n'oubliez pas de noter la session, à moins qu'il y ait des gens qui arrivent à évaluer ça dans leur tête. Voilà. Normalement, celui qui a trouvé, il va le crier. Mais bon.
Non.
Non. J'entends rien, là. Bon, non, attendez. Il y en a un qui lève la main, et puis on va... Voilà, monsieur.
Non.
Non. Non. Monsieur. Non. Ah. Non. Là-haut, un petit peu, là-haut, on les oublie. Ah, voilà. Alors.
Ouais.
Ouais, il y en a un qui a trouvé là-haut. Donc, ça a écrit lit 1, 3, 3, 7, comme ce qu'il y a écrit sur les pubs Freebox. Donc, monsieur viendra chercher. Qui avait trouvé, là, le lit?
Bon, ben voilà.
Voilà, ben, vous viendrez. Là, je crois qu'on a tout juste assez de cahiers pour le peu de personnes qui ont trouvé. Ben, je vous remercie tous, en tout cas. Voilà.
On a peut-être un peu de temps pour des questions. Si vous avez des questions,
si vous voulez passer nous voir, voilà.
Passez nous voir ou les poser ici, vu qu'il reste encore un peu de temps. Oui.
Merci.